petit peu stressé parce que avant de partir ce soir, j'avais tout préparé un beau PowerPoint et je paye sur enregistrer et ça a tout gelé là et il n'y a plus rien qui fonctionnait. J'ai enlevé la batterie, remis la batterie et il n'y avait malheureusement pas fait de copie de sauvegarde. Donc, à part de ça, j'ai pas pu imprimer mes notes vu qu'il était avec le PowerPoint. Mais j'ai mes gribouillis d'études. Fait que je devrais être capable de vous présenter un peu ce passage-là de la parole de Dieu. On va commencer par se courber devant l'auteur et prier. Seigneur notre Dieu, on voudrait te remercier pour ta parole. On te remercie pour son encouragement. On te remercie pour ce passage, Seigneur, qu'on va approcher ce soir, qui vraiment nous montre l'infinie grandeur de ta grâce envers nous, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais pour nous et je te prie, Seigneur, de m'aider vraiment à bien exprimer clairement ta parole. Et ce nom de Jésus qu'on t'en prie. Amen. Avez-vous déjà vu des annonces pour promouvoir la paix? Un petit clip ou quelque chose de même fait par qui que ce soit pour promouvoir la paix. Vous savez, une des choses qu'on voit souvent dans ces clips-là qui promouvoient la paix, un verbe bizarre, une des choses qu'on voit là-dedans, c'est la guerre. C'est vrai, quand on voit, quand ils veulent montrer, pour inciter les gens à aller vers la paix, ils vont montrer vraiment des images, des atrocités de la guerre et des choses. Et c'est un peu un contraste qui nous aide à se rappeler, de dire, « Hey, c'est ça que ça fait la guerre. » Ben à cette heure, on va aller vers la paix. Et ce passage-là qu'on a devant nous ce soir nous rappelle d'une guerre pour nous parler de la paix. Et tournez avec moi dans Éphésiens 2. Et on commence au verset 11. Éphésiens 2, 11, on va lire. « C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. » Ce passage-là commence par adresser ses destinataires. Et il nous dresse un beau portrait en les adressant. Il commence, c'est comme si j'arrivais à quelqu'un et je disais, « Bonjour, toi qui ne fais pas partie de ma famille, que j'aime pas ben, qui a plein de problèmes dans sa vie. » Il commence à dresser toute une liste des choses qui dénigrent ces personnes-là. Il dit au verset 11, « C'est pourquoi vous, autrefois païens, dans la chair appelée incirconcis, par ceux qu'on appelle... » Et là, il va descendre, il dit, « Sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances et aux promesses, sans espérance, sans Dieu. » Une belle description hein, pour adresser quelqu'un. S'adresse à ces gens-là, ces Éphésiens-là, et on le voit très clairement, qui s'adresse à des non-juifs. C'est plus clair que ça, il faudrait que ça s'est écrit... Ben, ça l'est écrit, païen. Donc, il est vraiment clair, il dit, s'adresse à des païens, il dit, « Vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis. » Il y a quelques semaines, j'ai fait un message à U-Turn sur cette fameuse question-là de circoncis, incirconcis. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Pourquoi la Bible s'attarde beaucoup à parler? Vous lisez les épîtres de circoncision, vous lisez Galates 2, Galates 5 ou 6, Dans Philippiens, il en parle. Dans Romains, chapitre 2 jusqu'au chapitre 4, il va en parler. Tout plein de passages, il va parler de la circoncision. Circoncision versus incirconcision. C'est un sujet qui revient et j'ai fait une petite liste qui est sur mon PowerPoint. Mais de mémoire, ça commence, ça remonte à loin. Dans Genèse, déjà, avec les fils de Jacob, qu'est-ce qui est arrivé? L'histoire de Dina. Je pense que c'est dans Genèse 24 ou quelque chose de même, 24 ou 26. Et sur mon PowerPoint, la liste. Mais l'histoire de Dina. Dina est arrivée, elle a rencontré un gars qui l'a pris puis qui a couché avec elle. Et là, c'était un incirconcis et les frères de Dina ont dit « Hey, c'est un incirconcis » et là, on dit « On va vous faire tout circoncire, toute la gang, pour que vous puissiez garder notre sœur. » Et ils se sont servis de la circoncision pour faire un génocide et tuer toute cette ville-là. Donc, c'était, direct en partant, un problème. Ensuite, tu vas dans Moïse. Amélie Demers m'a rappelé ce matin une histoire de Moïse. Entre Moïse et sa femme, déjà, un débat entre circoncision et incirconcision. Quand Moïse s'en retournait pour aller en Égypte, un bon moment donné, pendant la nuit, Dieu il s'en vient pour attaquer Moïse. Et Séphora, la femme de Moïse, a bien compris que c'était à cause de la circoncision qu'ils n'avaient pas circoncis leur enfant. Et donc, elle circoncit leur enfant drette là. Et après ça, elle dit à Moïse, « T'es un mari de sang à cause de la circoncision. » Déjà, drette en partant, on est au début de la Bible, c'était déjà un sujet qui amenait controverse. On voit avec les juges, Samson, comment ils appelaient les Philistins? Les incirconcis. C'est une manière préjorative de parler. David, quand il s'est adressé à Goliath, quand il a dit « Qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? » Et plusieurs passages comme ça, au travers de toute la Bible, c'est quelque chose qui revient et qui revient et qui revient, cette notion de circoncis contre incirconcis. Et rendu au temps où Paul écrivait, le temps de la vie de Jésus, c'était rendu vraiment quelque chose qui avait pris des proportions très, très grandes. Dans Ézéchiel, au chapitre 44 et au verset 9, si vous voulez tourner, Ézéchiel 44, au verset 9. Ça dit, « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Aucun étranger incirconcis de cœur et incirconcis de chair n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. » C'était une séparation complète d'avec le sanctuaire de Dieu, d'avec... Puis on se rappelle le temple puis toutes ces choses-là que Dieu avait instaurées en Israël étaient là pour représenter Dieu, pour que Dieu soit mis devant tous comme une lumière. Et c'était ces gens-là, et c'est intéressant parce qu'ils parlent incirconcis de cœur aussi. Dans tout ce débat-là de circoncision et incirconcision, j'ai compté 6 passages, et 7 avec celui-là, 6 autres passages qui nous rappellent l'importance de la circoncision, pas juste physique, que les Juifs mettaient beaucoup d'emphase, mais aussi la circoncision du cœur, qui est vraiment à l'intérieur, dans nos pensées. Et ce sujet-là, il revenait, et même, comme je disais, au temps de Jésus, c'était rendu que ça avait pris des proportions où les rabbins avaient fait ça comme une loi, que, et même un des rabbins qui avait dit, « Abraham se tient à la porte de l'enfer » pour vérifier qu'aucun circoncis va entrer là. Et de l'autre côté, ça prenait les proportions où ce que c'était dit que tu ne pouvais pas même porter assistance à une païenne en train d'accoucher parce que tu étais en train de l'aider à faire du bois de chauffage pour l'enfer. Les païens étaient des bûches pour l'enfer, pour réchauffer l'enfer. C'était rendu, vraiment, quand il parle dans Éphésiens, d'inimitié, c'est quelque chose qui était assez fort. Et on voit, quand j'ai lu les Actes cette semaine, quand on lit l'histoire des Actes, dans Acte 11, à Acte 10, ce qui se passe, c'est Pierre, avec Corneille, il rentre chez un incirconcis, et il lui annonce l'Évangile après que Dieu lui ait donné un songe. Et ensuite, dans, tournez acte 11, c'est intéressant. Et gardez en tête que c'est un incirconcis, un païen qui vraiment s'est converti à Dieu et a été... le Saint-Esprit est venu sur lui. Et là, on arrive tout de suite après dans acte 11. Ça dit, les apôtres, au verset 1, « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » C'est beau! Ils ont appris que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. « Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant, « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » La notion de circoncis et incirconcis était vraiment là. Et dans acte 15, on voit aussi que c'était rendu, il y avait, on voit au 15 verset 1, à Antioche, des hommes qui étaient arrivés. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Et Paul était un très grand défenseur du fait que c'était vraiment une fausse doctrine et que le salut venait sans la circoncision. Mais vous voyez, au travers de toute l'Écriture, les passages dans le Nouveau Testament que j'ai parlé tout à l'heure, au travers de toute l'Écriture, c'était vraiment un fossé énorme qui s'était creusé entre les Juifs et les païens. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Dieu avait mis les Juifs là? Pourquoi Dieu avait choisi un peuple et qu'il l'avait placé là? Pour le fun? Et les promesses qu'il avait faites à ce peuple-là, les lois qu'il avait données à ce peuple-là, il avait mis un peuple qui était différent, qui avait des lois différentes, des coutumes différentes, qui adorait un seul Dieu, quand tous les autres peuples autour étaient polythéistes, avaient les Juifs, le seul peuple monothéiste dans tout cet entourage-là. Il était différent et ils avaient mis pour le représenter. Et pour être, et plusieurs fois, c'est pas juste une chose du Nouveau Testament que dire qu'il était là pour être une lumière parmi les nations. Et même, ça remonte jusqu'à Abraham. La promesse qui avait été faite à Abraham dans Genèse 26, il dit, en ta postérité, ta postérité va être bénie? Ou toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité? Donc, les Juifs avaient vraiment un rôle d'être une influence parmi ce monde-là, mais par leur point de vue, leur orgueil religieux, il s'est creusé un immense fossé, ou comme notre passage dans Éphésiens, l'image, il l'illustre en utilisant un mur. Un mur qui était aussi illustré très bien du temps de la vie de l'apôtre Paul et de Jésus dans le temple à Jérusalem. Où ce que dans le temple, il y avait une muraille qui traversait, qui séparait, et sur laquelle il y avait plusieurs écriteaux qui disaient « Aucun incirconcis il traverse ce mur-là sous peine de mort ». C'était clair, il y avait un mur qui empêchait les incirconcis d'avoir accès à Dieu. Dans la Bible, on parle de prosélyte. Un prosélyte, c'était quoi? C'était un non-juif qui choisissait de devenir juif. Il se faisait circoncire et etc. Mais jamais un prosélyte n'avait le statut d'un juif. Ça restait un païen converti au judaïsme. Et tu avais aussi une autre catégorie de personnes dans la Bible qui étaient les hommes craignant Dieu. Souvent, on a cette image-là comme le centenier. Des hommes craignant Dieu, c'était des païens qui appréciaient beaucoup tout ce que le monothéisme apportait, puis tout le judaïsme, puis les valeurs et tout ce que Dieu faisait. Ils craignaient Dieu réellement, mais l'idée d'aller jusqu'à la circoncision les empêchait de faire le pas de plus et de s'en aller comme prosélyte. Donc, c'était vraiment là, tu t'approches pas. Et c'était une séparation nette entre juifs et non-juifs. Et on revient à notre texte dans Éphésiens, il dit, « C'est pourquoi vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, appelés, quand il dit de cette manière-là, vous pourriez dire, appelés incirconcis par ceux qui s'appellent circoncis. un peu le nez en l'air de dire, regarde, gang de circoncis, gang d'incirconcis. Mais c'est intéressant la manière que Paul l'apporte ici. Regardez la phrase qui vient de suite après. Appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Autrement dit, il dit, ces circoncis-là, ils n'ont rien de plus qu'une petite marque qui a été faite par quelqu'un. Et qu'ils ne l'ont même pas voulu, c'est leurs parents qui ont décidé. C'est juste une petite marque faite par la main de l'homme, et à cause de ça, ils prennent toute leur importance. Faite par l'homme. Et regardez ce qu'il dit. Il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là. Et c'est là, l'emphase, le verbe de l'emphase de ce passage-là, souvenez-vous. L'importance de souvenir. J'écoutais le chant « Crier à toi ». Il parle dans le refrain et il dit « Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. » Dans ce cas-là, c'est de se souvenir des bons temps qu'on a passés avec Dieu. Mais là, ici, c'est le contraire. De se souvenir du temps où ce que Dieu n'était même pas dans le portrait. Souvenez-vous que vous étiez sans Christ. Les circoncis, les Juifs, eux autres, avaient la promesse du Christ, du Messie. Il y avait la promesse du Messie. Il attendait le Messie qui allait venir, qui allait les délivrer, qui allait régner pour eux, qui allait les sauver. Il attendait ce Messie-là. Les païens, ils attendaient quoi? Rien. Sans Messie, sans espoir d'un sauveur ou quoi que ce soit. Sans rien. Privés du droit de cité en Israël. Les Juifs avaient ce privilège-là d'être citoyens d'Israël. Et Israël, c'était quoi? C'était le peuple de la promesse, le pays promis, le pays que Dieu avait donné. Et il était dans ce royaume-là où ce qu'il savait que le Messie allait régner. Il était citoyen de ce pays-là, cette cité en Israël. Tandis que le païen, lui, bon, il pouvait être citoyen romain, il pouvait être citoyen grec, il pouvait être citoyen de bien des places. Oui, il y avait une certaine fierté dans leur citoyenneté, mais des promesses futures et glorieuses liées à leur citoyenneté. Peut-être que les empereurs leur montaient à la tête, mais rien comme les promesses faites pour le pays d'Israël. Étrangers aux alliances de la promesse. Les Juifs avaient quoi? Il y avait, j'avais déjà fait cet exercice-là en bas à U-turn, mais ce livre-là, c'est quoi? Il n'y a pas personne de U-turn à soir, hein? Jeff était là. Mais c'est quoi ce livre-là? La Bible? Ça s'adresse à qui, la Bible, en premièrement? Aux Juifs? C'est un livre juif qu'on a entre les mains. Et tout, pourquoi est-ce qu'on parle tant de circoncision rendue à ce point-là? Parce que, regarde, toutes les promesses de Dieu, tout l'Ancien Testament, c'est Dieu qui parle à son peuple, les Juifs. Et ils ont toutes les promesses, les promesses principales qui ont été faites, les alliances qui ont été faites avec ce peuple-là. On a avec Abraham l'alliance d'une postérité nombreuse par laquelle toutes les nations de la terre allaient être bénies. Ensuite, on voit que Dieu lui a promis un pays à Abraham inconditionnellement et dit « Tu vas posséder ce pays-là ». De ces limites-là à ces limites-là, ça va être à vous. On voit ensuite, avec David, Dieu a promis un roi qui allait régner éternellement de la postérité de David. Il y avait toutes sortes de promesses de grandeur et bénédictions de ce peuple-là. Toutes sortes de promesses qui s'adressaient aux Juifs. Et le non-juif, il y a quoi? Des promesses dans un petit biscuit d'un restaurant chinois. À part ça, pas grand-chose. On n'a pas. Les Écritures n'étaient pas pour les païens n'avaient pas toutes ces promesses-là. Autrement dit, nous. Et sans espérance, les deux plus tristes sont à la fin. Et sans espérance. Sans espérance, regarde, on regarde plus loin, là. Bon, regarde le trou noir. On regarde plus loin, on se fait enterrer, on se décompose et on devient de l'engrais à pissenlit. C'est ça l'espérance. Quelle espérance?
qu'ils pouvaient avoir.
C'était ou soit les espérances qu'ils pouvaient avec leur religion qu'ils avaient, mais qui étaient souvent néant. Et sans Dieu dans le monde, quoi qu'il y avait plein de dieux, mais Ésaïe les appelle des restants de bois de chauffage découpés. Il ne le dit pas littéralement, mais il raconte l'histoire d'un gars qui va se couper du bois pour faire une table, un meuble. Après ça, il prend les restants, il fait une face. Après ça, le restant, il chauffe avec. C'est un morceau de bois. Sans Dieu, oui, il y avait des petits dieux, mais rien. Sans Dieu, sans le vrai Dieu. Sans le Dieu qui est vivant, sans le Dieu qui fait des promesses, sans le Dieu qui fait des alliances, sans le Dieu qui accomplit ses promesses, sans le Dieu qui avait promis un sauveur. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là comme ça. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là comme ça. Il y a 2 semaines, Jean-Luc apportait la parole sur le début de ce chapitre-là et il y avait un « mais ». Dans le début d'Éphésiens, au verset 4, il dit « mais Dieu ». Pour amener un contraste à ce qui avait été dit avant. Je vais revenir sur ce passage-là avant, mais regardez ici. Souvenez-vous de toutes ces choses-là que vous étiez. Vous n'aviez rien de ça avant. Mais souvenez-vous aussi que « mais maintenant ». « Mais maintenant en Jésus-Christ ». Et en Jésus-Christ, vous n'avez pas fini de le voir. Ça revient et ça revient en Jésus-Christ, en lui, en Dieu. Ça revient 27 fois dans 6 chapitres dans Éphésiens. Vous n'avez pas fini de le voir. Le thème d'Éphésiens, c'est « en Jésus-Christ ». Et qu'est-ce qu'on a maintenant en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on a? Vous qui étiez jadis éloignés, rappelez-vous que l'incirconcis n'a même pas le droit de s'approcher d'une certaine limite dans le temple de Dieu. Il dit « éloignés ». Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Qu'est-ce qu'il veut dire par rapprocher? Est-ce qu'il parle d'une manière géographique où, à cette heure que Jésus est mort, les païens avaient le droit de rentrer dans le temple à Jérusalem? Non. Parce qu'après la mort de Jésus, les païens n'avaient pas plus le droit d'entrer dans le temple à Jérusalem. Et même Paul, quand il est retourné à Jérusalem après son 3e voyage, ils l'ont vu à Jérusalem avec un grec, puis quand Paul est rentré dans le temple, là, il était certain qu'il avait fait rentrer un grec dans le temple, puis ils ont voulu le lapider, ils ont voulu le tuer, ils ont voulu l'arrêter, rien qu'ils n'ont pas voulu y faire à cause de ça. Il n'avait pas plus le droit d'une manière physique d'entrer dans le temple, mais Dieu, est-ce qu'il était vraiment dans ce temple-là? Vous avez été rapprochés par le sang de Christ, rapprochés d'une vraie manière. Et on voit au verset 14, il change un peu de ton et il va parler, maintenant il a parlé du passé. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous du passé. Maintenant, regardez maintenant là, en Jésus-Christ. Il est notre paix. Jésus-Christ est notre paix. Ce n'est pas juste celui qui apporte la paix, ce n'est pas juste celui qui dirige pour amener à la paix. C'est lui la paix. Car il est notre paix. Et rappelez-vous de quoi qu'il est question ici. Cette différence-là, ce fossé-là qu'il y a entre Juifs et Grecs, il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un. Petite question mathématique. 1 plus 1 donne 2. Lui qui a fait 1 plus 1 égale 1. Comment ça marche? Comment est-ce que tu peux prendre deux entités aussi différentes, aussi divergentes, avec tellement de points opposés, et en faire un seul? Et il le dit dans les phrases qui suivent, il dit qu'il a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Renverser le mur, une image qui me revenait dans la tête, pas que j'étais vraiment conscient quand c'est arrivé, mais la chute du mur de Berlin. Il y en a qui sont peut-être assez vieux pour se rappeler, mais je me rappelais des images que j'avais vues quand on avait regardé ça, où tu vois un panneau qui tombe là, avec le soldat qui monte sur le dessus. Puis, ce mur-là était tombé, cette séparation qui séparait l'Est de l'Ouest, ces deux idéologies-là qui avaient été séparées et qui avaient souffert, étaient maintenant ralliées. Lui qui, des deux, en a fait un, qui a renversé le mur de séparation entre les circoncis et les incirconcis, les juifs et les non-juifs. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Ça, le ayant, c'est qu'il est en train de nous dire là, de quelle manière qu'il a fait ça. De quelle manière? Il dit, en ayant anéanti la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, il a anéanti la loi pour amener la paix, pour briser ce mur-là. Il a défait la loi. Mais pourtant, Jésus n'avait pas dit que lui, il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et là, il dit, il a anéanti la loi dans des ordonnances dans ses prescriptions pour apporter la paix. C'est intéressant parce que ce matin, c'était Jeff qui était en bas et on regardait Romains 5. Et vous l'avez probablement, vous l'avez vu aussi en haut. Mais Romains 5 parle justement de séparation, de réconciliation. Mais il parlait, l'idée m'est complètement sortie de la tête. Jeff, tu n'as aucune idée de ce que je voulais dire. Hein? Moi non plus. Ça va peut-être me revenir. Mais il parlait du rôle de la loi. Le rôle de la loi qui était là, pourquoi? Bon, on a parlé au début tout à l'heure que c'était une des choses que la loi faisait, c'est que ça rendait les Juifs un peuple distinct qui lui appartiennent. Plusieurs fois, c'est dit dans l'Ancien Testament que Dieu voulait un peuple mis à part qui lui appartienne, qui reflète justement son nom parmi les nations. Ça le distinguait. Et deuxièmement, c'était là pour marquer, montrer le péché, pour mettre le péché en évidence. La loi était là pour mettre le péché en évidence. Question, dans tout conflit sur la terre, qu'est-ce qui est présent? Le péché. Trouvez n'importe quel conflit, trouvez, regarde, quel conflit que ce soit, vous allez trouver le péché. Et pourquoi je dis ça? Parce que la seule place où vous ne trouverez jamais de conflit, c'est dans la Trinité. Parce qu'il n'y a aucun péché là. À part ça, par tous les autres, toutes les autres relations qu'il peut y avoir qui sont teintées par le péché, vous allez voir des conflits. Et il est venu pour abolir, bon, cette distinction-là. Un, on va passer par la distinction. Dans la loi de Dieu, il y avait des choses qui étaient vraiment, c'était des lois qui nous disent le bien du mal. D'autres lois étaient plus des lois cérémonielles ou des lois civiles qui disaient, le bœuf de l'autre, il tombe d'un trou chez vous puis que tu n'avais pas couvert le trou, ben tu lui redonnes un bœuf. Mais c'était des lois tout à fait civiles. Mais il y avait aussi des lois cérémonielles comme les sacrifices et toutes ces choses-là. Ces sacrifices-là, est-ce que après Jésus, il y en avait encore? Il y en a eu encore parmi les Juifs, mais Jésus, Hébreux nous parle comme Jésus étant celui, le sacrifice parfait, une seule fois pour toutes, qui est venu effacer le péché. Premièrement, ces lois-là, il n'y en avait plus besoin. Et ce mot-là aussi qui est là, ayant anéanti, c'est le mot rendre inefficace, la loi et les ordonnances. Quoi que c'était, ça a toujours été inefficace. Et il a rendu justement, montré que cette loi-là pouvait pas. Et c'était dans, je pense encore dans Hébreux, qui dit, si l'ancienne alliance aurait été parfaite, est-ce qu'on aurait eu besoin d'une nouvelle? Il a montré que toute cette alliance-là, ces lois-là, avaient besoin d'un accomplissement. Et Jésus, en l'accomplissant, a mis fin à cette distinction-là. Et ensuite aussi, il a réglé le cas du péché, qui était la source première de toute division, de toute séparation. Et regardez ce qu'il a fait. Il dit, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et regardez, il se répète un peu ces phrases-là. Au début, il dit, lui qui des deux en a fait qu'un. Et là, il dit, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau. Et ensuite, dans le verset 16, il dit, l'un et l'autre en un seul corps. Il met vraiment l'emphase que c'est deux entités séparées qui deviennent une entité distincte. Il dit, l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Encore là, il se répète. Il a détruit le mur de séparation, l'inimitié. Il a détruit l'inimitié. 16, du verset 14 à 16, vraiment, il tape sur le même clou. Il est venu de faire de deux entités une seule. Maintenant, je vais vous poser une question. Juif plus païen égale quoi? Et ça, c'est peut-être une question. J'écoutais certains messages par certains prédicateurs connus et il y avait une position qui était différente de la mienne sur c'était quoi la réponse de cette question-là? Est-ce que juif plus païen égale juif plus prosélyte? Est-ce que juif plus païen égale païen chrétien, admettons, plus ex-juif? Est-ce que juif plus païen égale un homme nouveau, créé en Jésus-Christ? C'est ce que le passage nous dit. Et c'est intéressant qu'on peut arriver souvent avec ce passage-là et de dire qu'il a rétabli bon, les deux et maintenant, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, les chrétiens, on est venus, on est le nouvel Israël, on s'est approprié des promesses faites à Israël parce qu'on est venu la remplacer. Excuse, il n'y a pas de remplacement d'Israël ici, c'est deux, pas qui font un ou qui font un, c'est deux qui font un. Une nouvelle entité. Et Éphésiens est le livre qui nous présente ce mystère-là, caché de toute l'éternité, que même les prophètes de l'Ancien Testament, tu les aurais montrés puis ils auraient bogué. Juifs et païens réunis en un seul corps. Et en un seul corps indivisible. Et quelques autres passages qui m'amènent à voir ça, c'est dans ce passage-là, parce qu'on traite une petite section du passage, mais regardez au début du chapitre 2 d'Éphésiens. Au début du chapitre 2 d'Éphésiens, un passage qu'on a vu il y a deux semaines, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Bon, à qui parle? Et on le voit dans le verset 2, « Dans laquelle vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'agir qui... L'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous étions, et là regardez ici, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants comme de colère, comme les autres. » Il dit, vous étiez, et un peu la même structure que au verset 11, il dit, vous autrefois païens, il dit, vous étiez morts par vos offenses. Mais il dit, regardez au verset 3, il dit, nous tous aussi. De qui parle? Ouais. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère. Donc la question que je pourrais poser, est-ce que les païens qui étaient sans Dieu, morts dans leurs péchés, à cause de Jésus, se sont ralliés aux Juifs qui étaient morts dans leurs péchés, qui étaient de leur nombre et qui vivaient selon les convoitises de leurs pensées. Un autre passage, dans le même passage, regardez au verset 17, verset 16 avant. En établissant, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu. L'un, c'est les païens, l'autre, c'est les juifs qui avaient besoin d'être réconciliés ensemble, et les deux avaient besoin d'être réconciliés avec Dieu. Au verset 17, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et qui étaient corrects à ceux qui étaient prêts. Non, et la paix aussi à ceux qui étaient prêts. Le message de cette union-là, c'était pas le message de un qui venait rejoindre l'autre, d'un bord ou de l'autre. C'était le message de deux, que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu et qui ont été ralliés dans un homme nouveau avec la paix entre eux et la paix avec Dieu. Et c'était le message de paix qui était apporté dans ce passage-là. Vous étiez ennemis, étrangers, loin, garde, vous aviez toutes pas les affaires que tous les Juifs avaient, mais en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés et Dieu a établi la paix entre vous et la paix entre vous et Dieu. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Pourquoi? Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. On a tous été reliés dans un nouveau corps, un nouvel homme, comme qui est dit, qui est l'Église, dans lequel y a-tu une distinction entre un chrétien juif et un chrétien païen? Ça, Galate est clair. Y a-tu une distinction entre un esclave et un maître? Y a-tu une distinction entre un employé, un employeur, un ministre et un éboueur? Y a-tu une distinction entre les personnes? Dans le corps de Christ, on est tous, souvenez-vous, morts, perdus, privés de tout droit de cité, sans Christ, sans Dieu, sans espérance. On est toutes de cette gang-là et on a été rapprochés. Je veux vous ramener encore dans les passages précédents, au verset 7. Pourquoi est-ce que Dieu a fait tout ça? Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Autant que le fait d'être mort dans nos péchés et d'avoir été rendu à la vie, ce n'est pas par les œuvres. Ici, ce même passage-là est relié aussi, de dire, si j'étais loin et je me suis rapproché, je ne me suis pas rapproché, Dieu m'a rapproché, afin que personne ne se glorifie. J'étais juif, j'étais proche, j'avais les alliances, j'avais toutes les choses qui me rapprochaient de Dieu. Mais Dieu a établi la paix et je me suis rapproché. C'est par la grâce. C'est pas à cause que j'étais juif. Et l'autre, c'est pas à cause qu'il était païen. J'ai été rapproché. C'est afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Autrefois, afin de vraiment vous accrocher à la richesse de sa grâce. Souvenez-vous d'autrefois, afin de vous accrocher au fait que ce n'est pas par les œuvres, que ce n'est pas vous. C'est la richesse de la grâce de Dieu qui a travaillé en vous, qui vous a amené de loin d'ennemis à rapprocher. Souvenez-vous. C'est intéressant aussi, ce message-là parle de réconciliation entre Dieu et les hommes, entre des peuples. Est-ce qu'on fait encore ces distinctions-là? Est-ce qu'encore on voit certains gens dans certains milieux où est-ce que dit ah non, eux autres, regarde, l'Évangile, c'est pas pour eux autres. Eux autres sont loin, eux autres, ils veulent rien savoir. Ou est-ce que c'est encore pour toutes les nations? Un de mes passages préférés, c'est dans 2 Corinthiens 5. Et on peut tourner. On a été réconciliés avec Dieu. On a été pris de à rien du tout à son peuple. On a été réconciliés avec Dieu et c'est aussi le ministère que Dieu nous a donné. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, on parle encore de nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Encore là, on revient à ce thème-là, que c'est par la grâce, la richesse de la grâce de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a Et tout ça vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Souvenez-vous de ce ministère-là. Dieu nous appelle à réconcilier le monde avec lui-même. Mais comment est-ce qu'on peut réconcilier le monde avec lui-même si on est encore divisé entre homme et homme, entre peuple et peuple? Ici, c'est peut-être moins le cas au Canada, parce qu'on est un pays multi-ethnique et vraiment, ben, pas tant que ça. Il y a quand même du chiolage qui se fait par en arrière, puis du racisme caché. Contre différents peuples, que ce soit contre les Juifs, contre les Arabes, les Africains, que ce soit contre n'importe quel peuple, on est appelé à un ministère de réconciliation. Il n'y a pas devant Dieu un qui est plus proche que l'autre, un qui fait plus partie de son Église que l'autre. Et Dieu nous a réconciliés avec lui et il a fait de nous son peuple. Qui est plus, je parlais tout à l'heure de la comparaison entre juifs et païens. Et là, on disait, tu sais, vous qui étiez éloignés, puis eux autres qui étaient proches. Puis nous autres, on est où maintenant? On est dedans. Ils étaient éloignés de Christ. Eux autres, ils étaient peut-être proches. Mais maintenant, on est en Jésus-Christ. Y a-tu plus proche que ça? Dieu a fait de nous vraiment les plus proches qu'il pouvait avoir. Et regardez la liste. Souvenez-vous de la liste de tout à l'heure. Les Juifs, ils attendaient le Messie. Ben, ils l'attendent toujours. Puis il va arriver un jour. Ils vont juste se rendre compte qu'ils ont manqué le bateau. Nous, on est en lui. On était privés du droit de cité en Israël. Les Juifs avaient ce droit de cité-là en Israël, mais nous, c'est pas en Israël qu'on est citoyens. On est citoyens des cieux, d'où Dieu a sa demeure. On est citoyens des cieux, et ça revient dans Éphésiens 2, 6, où on est assis dans les lieux célestes, dans Philippiens 3, 20, où on est citoyens des cieux. On était étrangers aux alliances de la promesse. Vous savez, ces promesses-là, les Juifs les ont encore. Ils vont s'accomplir. Nous, qu'est-ce qu'on a? On a l'accomplissement de cette promesse-là. Elle dit, en sa postérité, toutes les nations de la terre vont être bénies. Mais on en fait partie. On fait partie de toutes ces nations-là qui ont été bénies en Jésus-Christ, qui était de la postérité d'Abraham. On était sans espérance. Maintenant, quelle espérance qu'on a? Je pourrais commencer à énumérer que ce soit la résurrection, la délivrance du péché, de voir Jésus face à face, d'être avec lui dans sa présence, d'être réuni avec tous les saints. On a une espérance vivante et pas juste pour le futur, mais qu'on meurt. Présentement, on a cette espérance-là que Dieu, Jésus nous a dit, « Je suis avec vous ». Tous les jours, on a toutes sortes de... Regarde, des promesses et une espérance en lui que même les Juifs n'avaient pas. On était sans Dieu dans le monde. Maintenant, on est enfant de Dieu. On n'est pas peuple de Dieu. On est enfant de Dieu. Puis comme par rapport à Christ, on est quoi? On est l'épouse de Christ. Comment plus proche est-ce qu'on peut être? Afin de se souvenir de la grandeur, de l'infinie richesse de sa grâce, et que c'est nullement par nous-mêmes, mais complètement par lui et en lui. Prions. Seigneur notre Dieu, on voudrait te remercier, Seigneur, pour ta grandeur. On te remercie parce que cette grandeur-là n'est pas éloignée de nous, Seigneur, mais tu l'as vraiment manifesté, Seigneur, en nous. Tu t'es servi de nous pour montrer ta grandeur. Seigneur, on n'est rien, on est seulement... On peut seulement se réjouir, Seigneur, et à être ému, à être bouche bée, Seigneur, devant tout ce que tu fais pour nous, de comment tu nous as pris de rien qu'on était, pour faire de nous vraiment tout avec ton Fils. Seigneur, aide-nous à se souvenir et à agir en conséquence en se souvenant. De ne pas mettre de côté, faire comme de vivre en oubliant, Seigneur, d'être des auditeurs oublieux, mais de se rappeler tout ce que tu as fait pour nous. Puis d'être reconnaissant. Et sur le nom de Jésus, qu'on t'en prie. Amen.